Juste pendant le temps de louange, il y a quelque chose qui m'a touché. Et avant de débuter vraiment sur le texte prévu ce matin, j'aimerais dire un mot sur notre espérance chrétienne. On vit dans un monde, on le sait, on l'a évoqué ce matin, particulièrement difficile et particulièrement violent, où le péché fait des ravages, où des innocents sont tués et malmenés. La Bible n'est pas muette sur le sujet. Je repensais à ce que Jésus disait peu de temps avant sa mort, hein, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, donc c'est à la fin de son parcours. Jésus dit: prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup en effet viendront se servant de mon nom en disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils égareront une multitude de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Et le rôle que Jésus donne, ce n'est pas d'aller régler ses problèmes, parce qu'on ne peut pas. Parce que la Bible nous apprend que ces problèmes sont le fruit du péché qui touche le monde, de la nature profonde de l'homme. L'homme sait ce qu'il a à faire. Dieu lui a dit, mais enfin. On a mis en place les Nations Unies, on a mis en place des conventions. L'homme sait ce qu'il a à faire et pourtant il ne le fait pas. La Bible le dit, c'est le péché. Et la seule chose qui éliminera le péché, c'est le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas les efforts que nous pourrons mettre en route, c'est son retour. Le mal se répandra. L'amour de la multitude se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée sur toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, dit-il, vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Prions. Seigneur, tu nous avais prévenus, et peut-être lors de tant d'accalmies, nous l'oublions, ou nous avions espoir que nous, l'humanité, nous ayons enfin compris et que nous nous améliorons. Mais tu nous as prévenus, le péché ne lâchera pas sa prise jusqu'à ce que tu reviennes et que tu lui infliges sa défaite définitive. Seigneur, c'est difficile pour nous de comprendre pourquoi ça dure aussi longtemps? Pourquoi tant de personnes doivent souffrir? Pourquoi nous-mêmes devons souffrir? C'est dur de le comprendre. Parfois, nous trouvons cela injuste. Et tu le dis, c'est injuste. Mais tu le dis aussi, ces choses-là doivent arriver. Pourquoi? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais Seigneur, je veux faire confiance à ta parole. Tu as dit que Jésus revenait. Tu as dit que son retour serait la fin du péché. Tu dis que son règne durera toujours. Seigneur, nous croyons en cette parole et nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Hervé nous a donc dit que ce matin, nous parlons de repas. Parce que dans ce monde compliqué, et le monde où Jésus a vécu était compliqué, un monde violent, avec les armées romaines qui ont conquis par la force tout le monde qu'elles connaissaient et qui continuaient à faire régner d'une main de maître la torture, il ne faisait pas bon d'être délinquant à l'époque. Et c'est dans ce monde violent que Jésus est venu, qu'il a vécu. Et nous avons, à travers les évangiles, le témoignage de ce qu'il a vécu. Et ce matin, nous lisons un texte assez court dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, à partir du verset 27. L'évangile de Luc que nous explorons comme ça jusqu'à Pâques. Où nous regardons comment Jésus a vécu parmi nous. Donc Luc, chapitre 5, verset 27, où il est écrit « Après cela, il sortit et aperçut un collecteur des taxes nommé Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Celui-ci laissa tout, se leva et se mit à le suivre. Lévi donna pour lui un grand banquet chez lui. Il y avait une grande foule de collecteurs des taxes et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes maugréaient. Ils disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs des taxes et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Ce ne sont pas les justes, ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à un changement radical. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous avons donc un texte qui nous parle d'un repas, organisé par Lévi. Tiens, tu nous avais annoncé Matthieu. Par Lévi, où Jésus est présent et où Jésus est critiqué par les pharisiens. Trois personnages, donc, ou groupes de personnes, Lévi, les pharisiens et Jésus. Lévi, l'organisateur du repas, et qu'on appelle aussi Matthieu. Puisque le même épisode raconté dans l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu qui est là. À cette époque, les gens pouvaient avoir plusieurs noms, les noms avaient une signification et on pouvait renommer les personnes en souvenir de la direction qu'ils prenaient. Lévi, Matthieu, c'est la même personne. Ouf! C'est lui qui organise ce repas et on voit bien que Lévi, c'est pas n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Ce nombre d'invités montre à la fois qu'il est assez riche pour pouvoir payer à manger pour tout ce monde. Et puis, ça montre aussi qu'il était connu. Il faut avoir quand même un certain carnet d'adresses pour pouvoir envoyer les invitations au minimum. Lévi, on le voit au début du passage, il a fait un choix radical. Celui de tout laisser pour suivre Jésus. Et j'ai beau avoir lu et relu ce texte ou d'autres où c'est écrit pareil, je suis toujours étonné. Jésus passe, il voit quelqu'un et lui dit « Si, suis-moi » et le gars le suit. Pendant tout l'évangile, 3 ans. Et Luc en plus, Lévi, c'est pas un SDF. Lévi, il a un métier, un emploi qui paye bien, où il a des responsabilités. Il était en train de récolter les taxes et le texte nous dit qu'il laisse tout en plan, comme ça, pour suivre Jésus. J'ai vraiment du mal à l'imaginer, à me projeter. Je me sens bien incapable de faire des choses pareilles, de tout laisser pour suivre Jésus. Et pourtant, ce choix radical, il le fait. L'Évangile nous dit qu'il laisse tout, et je vois bien que je me représente, là, qui se lève de sa table de péage pour partir. Et en même temps, il ne laisse pas tout, puisque avant de partir, il organise son pot de départ. Il invite les amis pour un grand repas. Et en relisant le texte, en l'étudiant en vue de ce matin, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ce repas? Ben oui, c'est un pot de départ. Il invite tous ses collègues, avant de partir, une dernière fois, pour être là, pour être ensemble. Il ne peut pas partir sans dire au revoir. Il va tout laisser, mais il y a besoin quand même. Pas de partir discrètement, sans rien dire, mais d'être au clair, d'être en paix, de faire la fête, de marquer le coup avec ceux qui l'ont accompagné dans sa vie jusqu'à présent. Et c'est intéressant de voir où sont les priorités de Lévi à ce moment-là. Ses priorités, elles ne sont pas dans son métier, dans cette dimension matérielle des choses. Elles sont dans ses relations, dire au revoir. Et puis, faire le lien aussi entre ceux qui l'ont accompagné dans la période précédente de sa vie et puis celui qu'il va accompagner, Jésus, qui est là, à ce repas. Et c'est lui l'invité d'honneur, nous dit le texte. C'est en son honneur que Lévi organise le banquet. Deuxième personnage, ou plutôt groupe de personnages, il y a les pharisiens et leurs scribes. Il faut faire attention parce que quand on lit les évangiles, on pense que pharisiens, c'est un synonyme de méchants. Les méchants, hein, comme dans un dessin animé de Walt Disney. Il y a certains personnages, quand ils arrivent, il y a une musique un peu lourde, un peu sombre, et on sait tout de suite, avant de le connaître, lui c'est un méchant. Quand dans l'évangile il y a écrit pharisiens, c'est un peu comme ça. Mais il ne faut pas oublier, les pharisiens, c'est un groupe religieux, et c'est des gens, ils sont passionnés par la loi. Passionnés par la loi de Dieu, qui lisent et relisent, et ils veulent l'appliquer le plus précisément possible, et ils veulent savoir dans tous les détails ce que ça va impliquer dans leur vie. Et Jésus, pendant tout son temps sur terre, pendant tout son ministère, va leur dire qu'ils vont trop loin, et ils vont tellement loin qu'ils en sont hypocrites. Mais au départ, il y a une passion pour la loi de Dieu. Et bon, on ne va pas passer notre temps à parler des pharisiens, mais il y a quand même quelque chose de triste que des gens qui sont aussi passionnés de Dieu ont réussi à être aussi en décalage, autant en décalage. Et là, et ben on les voit, ils viennent faire des reproches. Des reproches pas de façon directe. Le texte nous dit « ils maugréent ». Maugréer, c'est parler discrètement, en douce, en catimini. Ils se plaignent, ils vont pas directement à Jésus pour lui demander des explications ou même pour lui faire des reproches, pour lui demander de se justifier. Non, ils vont voir les disciples. Ils vont voir les disciples de Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils vont voir les disciples plutôt que Jésus? Est-ce qu'ils essayent de les influencer, de les récupérer, de les avoir en douce, d'atteindre Jésus par d'autres moyens? Peut-être qu'ils ont un peu peur de Jésus parce que Jésus il a de la répartie, donc ils s'attaquent à d'autres qui sont plus faibles. Et ça, c'est une constante. Et on est au début de l'opposition entre les pharisiens et Jésus dans l'évangile de Luc. Il y a eu juste avant un premier épisode où Jésus a guéri quelqu'un dans le temple le jour du sabbat. Et c'était là, non, 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 pas dans le temple, pas le jour du sabbat. Là, Jésus, il est à l'extérieur, dans une maison, un lieu privé. Non, non, il ne faut pas, ce n'est pas bien. C'est que le début, ça va continuer dans les textes qu'on va étudier jusqu'à Pâques, on va encore avoir des interactions, des conflits entre Jésus et les pharisiens. Et là, leur argument, c'est vous ne devriez pas être là, ce sont des pécheurs. Ils sont mauvais. Ils font du mal. C'est un peu dur. Les collecteurs de taxes, ils avaient mauvaise réputation, ils n'étaient pas aimés. On ne les aime pas beaucoup aujourd'hui non plus. Ceux qui sont contrôleurs des impôts, généralement, ce n'est pas la première chose qu'ils disent quand ils se présentent. Ils n'étaient pas aimés parce que déjà, ils travaillaient pour les Romains. Ils tenaient les Romains avaient mis des points de péage et puis donc il y avait des personnes qui étaient là, qui les tenaient. Donc déjà, ils travaillaient pour ceux qui occupaient le pays. Mais ils n'étaient pas aimés non plus parce que les prix qu'ils pratiquaient, on les trouvait exorbitants. Donc bon, on ne les aimait pas trop. Je me suis demandé aujourd'hui s'il y avait comme ça des professions que quand on entend, on a envie d'éviter. Je pensais aux gendarmes sur la route avec leur radar. Généralement, cette activité-là, on l'aime pas beaucoup. Je pensais au CRS, dont le métier, c'est le maintien de l'ordre, et que quand il y a des manifestations, on peut voir que ce maintien de l'ordre, il y a des dégâts. Selon l'orientation politique qu'on peut avoir, on peut trouver nécessaire le travail des CRS, et au contraire, trouver que les syndicalistes, c'est quand même une activité qui nous gêne, une activité de réclamer, râler, prendre en otage les usagers tout le temps. Réfléchissez, il y a des gens comme ça, est-ce que vous seriez prêt à passer un repas au milieu d'eux ? À les écouter, raconter leurs expériences de travail, peut-être les expériences un peu drôles qu'ils ont eues, et vous, vous êtes mal à l'aise parce que ces expériences-là, vous les vivez de l'autre côté, et ce n'est pas toujours drôle. Voilà, c'est ce genre de repas où Jésus est, et à mon avis, c'est ce genre de reproche qui lui est fait, reproche de manger avec eux. Pas seulement d'aller leur dire bonjour, leur serrer la main et puis passer à autre chose, manger et boire avec eux. Il s'associe à eux quelque part. Il se met à table et il prend le temps de discuter, de faire connaissance. Et à cette époque-là, manger, c'est même plus loin, partager un repas, il y a une dimension d'intimité qui est là, qui se fait. Mais je crois qu'on peut le comprendre, quand on invite quelqu'un chez soi et qu'il vient à sa table, on a établi un contact quand même. Ça montre une certaine solidarité. Et je pense que dans la tête des pharisiens, il y a une croyance que cette association, elle est contaminante. Si Jésus y va et mange avec eux, il va être contaminé par leur péché. Or, Jésus, c'est un homme de religion. Ils ne sont pas d'accord avec lui, avec sa façon de lire les Écritures, de lire la loi, mais quand même, ils passent leur temps à discuter avec lui de Dieu. Et quand on fait partie de ce groupe de personnes, de cette caste, eh ben, on va dans les lieux de culte, on va à la synagogue, on va au temple, ou alors on passe la nuit sur le toit en terrasse, à la fraîche, pour discuter théologie, comme Jésus avec Nicodème. Mais on ne va pas dans des repas avec des collecteurs des taxes. Ce n'est pas avec eux qu'on va débattre de théologie. Au contraire, les gens qui sont purs doivent rester entre eux pour ne pas se salir et pour être de plus en plus purs. Voilà, je pense, quel est leur raisonnement. Il ne s'agit pas juste de tomber sur Jésus pour tout ce qu'il fait. Là, on est au début du ministère et vraiment, ils y croient que Jésus ne fait pas bien et qu'il faudrait qu'il fasse autrement et ils seront tous d'accord. En lisant ce texte, je vois aussi quand même, il y a dans leur démarche un exercice de manipulation, de semer le trouble en passant par derrière, de ne pas aller frontal, une discussion qui aurait pu donner lieu à un débat, à un enseignement de la part de Jésus, mais à la place, on reste à la marge pour dire du mal en cachette, pour essayer d'isoler Jésus, de l'affaiblir, plutôt que discuter, essayer ensemble de se comprendre et se mettre d'accord. Voilà pour les pharisiens. Et puis il y a aussi Jésus. Et Jésus, lui, simplement, eh bien, il y va. C'est intéressant de voir quand Jésus parle aux pharisiens, Jésus ne dit pas que « Non, non, vous vous trompez, ils ne sont pas pécheurs. Non, vous vous trompez, ils sont justes. » Non, il est d'accord. Il dit « Je vais voir les malades, je vais voir ceux qui sont pécheurs. » Donc il ne les contredit pas sur le diagnostic qu'il porte sur ces gens, mais par contre, c'est pour ça qu'il y va. Et il a cette phrase où il dit « Le médecin, il est là pour les malades, pas pour les personnes qui sont en bonne santé. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a lu ce texte et j'ai dit que c'était un texte programmatique quand Jésus, dans la synagogue de Nazareth, lit le prophète Ésaïe. Jésus a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Jésus, il est venu pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont aveugles, aveuglés spirituellement, pour ceux qui sont captifs, captifs du péché. Il est venu pour eux. Il est venu pour appeler à un changement radical. Mais appeler à un changement radical, ce n'est pas venir monter sur une caisse à savon et crier « Repentez-vous !» Pour Jésus, appeler à un changement radical, ça commence par s'asseoir avec les personnes, manger et boire avec eux, rire, discuter. Et au cours de la conversation, les sujets importants viendront tout seuls. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais lui, il aura été là, disponible pour ceux qui en avaient besoin. Les pharisiens croient que s'associer à d'autres, ça peut nous contaminer. C'est vrai. Mais ça marche dans les 2 sens. La présence du Fils de Dieu, de l'homme parfait, elle est aussi contaminante. Et elle va influencer les personnes avec qui il s'assoit à table. C'est intéressant de voir que Jésus ne se positionne pas par rapport à ce qu'on attend de lui. Il y avait tout un culte qui était organisé. Au Dieu le Père, et lui le Fils, au lieu de se conformer aux attentes de ceux qui organisent le culte, lui, il sait ce qu'il a à faire. Il sait pourquoi il est venu. Prendre soin de ceux qui en ont besoin, là où ils sont. Je crois que ce texte, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir comment l'appliquer. Il y a une application pratique pour nous, c'est faire de même. Manger, organiser des repas, sociabiliser, passer du temps avec les autres, faire comme Lévi et inviter, organiser des repas où on mélange nos amis et les gens de l'église. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui le font parmi nous. Moi, je me souviens une fois, il y avait ce missionnaire américain qui était là il y a quelques années. Il avait fait un barbecue, il avait invité ses voisins, des amis de ses enfants, et puis nous y étions invités, et puis un autre jeune de l'église, et tous ensemble, on a passé la soirée dans le jardin. Et l'objectif, c'était juste de mélanger, faire que les gens se rencontrent et laisser faire le Saint-Esprit. C'est une façon d'évangéliser, en fait. Pensiez que évangéliser, c'est compliqué. Ça demande d'être un chrétien expérimenté, ça demande d'avoir réponse à tout. Mais en fait, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez juste inviter des gens et les mettre ensemble et les faire se connaître. Vous pensiez que qu'être chrétien, c'était quitter tous ses amis? Souvent, on constate que les nouveaux chrétiens, ce sont les seuls à avoir des amis et des connaissances non chrétiens. Mais le but de l'Église, c'est pas d'isoler les chrétiens pour les garder entre eux. C'est pas ça le but de l'Église. Au contraire, il faut le but de l'Église, c'est d'être utile là où on est. C'est d'être utile pour nos amis. Leur donner l'occasion de rencontrer le médecin Jésus-Christ. En fait, Lévi, à peine appelé, c'est déjà un disciple qui passe à l'action. Et peut-être sans s'en rendre compte, mais c'est pour ça que Jésus est venu le chercher. Lévi, il œuvre pour le royaume, et il œuvre pour le royaume tel qu'il est. Comme quelqu'un qui a de l'argent et qui a l'habitude d'en faire profiter ses amis sur des événements comme ça. Et c'est ça qu'on est invité à faire. Œuvrer pour le royaume tel que nous sommes. Pas rester tel que nous sommes, mais devenir qui nous sommes. Dieu nous a créés tous différents, avec des qualités différentes, avec des caractères différents. Alors, nos caractères, nos personnalités sont abîmées par le péché. Mais quand le Saint-Esprit vient nous changer, notre caractère, notre personnalité se révèle. Et c'est ça que nous devons être. Pas mettre le costume de quelqu'un d'autre, mais être vraiment nous-mêmes. Celui que le Seigneur voulait que nous soyons quand il nous a créés. Donc l'application pratique, c'est oui, nous pouvons faire comme Lévi, inviter. Nous pouvons aussi faire comme Jésus, répondre aux invitations. Aller dans ces occasions, dans ces repas. Nous ne sommes pas Jésus. Jésus est au ciel, il est à la droite de Dieu, où il règne, et il a laissé son Église, c'est-à-dire nous, pour continuer ce qu'il a commencé. Il compte sur nous pour poursuivre son action. Il compte sur nous pour être présents dans ses repas où lui n'est plus présent, pour le représenter. Et répondre positivement, c'est pas si facile que ça. Ça demande de se rendre disponible. Parfois, se rendre disponible, c'est compliqué. Si on m'invite mercredi soir, peut-être que c'est le soir de l'étude biblique, qu'est-ce que je fais? Je peux pas. Un autre soir, est-ce que je suis libre ou est-ce que je suis toujours à l'église? Ou est-ce que c'est le seul soir où je vois mon conjoint, mes enfants? Ou est-ce que c'est le seul soir où je peux réviser pour mes partiels? Ce n'est pas les occasions qui manquent, des occasions, il y en a. L'invitation de frères et sœurs de l'Église qui peuvent, comme Lévi, mélanger. L'invitation d'un voisin qui vient inviter pour prendre l'apéro ou autre chose. Ou des événements organisés comme la fête des voisins ou des réunions organisées par le maire, les vœux qu'il fait, les vœux publics ou autres. Mais est-ce que j'ai du temps libre pour répondre positivement à ces sollicitations? Est-ce que j'ai du temps libre ou est-ce que tout mon temps est déjà pris au maximum. Occupé à 120% pour être sûr de ne pas m'ennuyer. Je sais que j'ai cette tendance à vouloir toujours remplir la peur du vide. Et puis pas envie d'être dérangé, pas envie de sortir de mon confort. Mais souvenons-nous de Jésus. Lui qui a quitté son confort, lui qui de toute éternité était avec Dieu et qui est venu sur terre. Sur cette terre, pleine de souffrances, pleine de tensions, pleine de maladies, lui, pour le coup, il a quitté le plus grand confort pour venir parmi nous. Et il s'est rendu disponible. Il a marché parmi nous. Et puis, Jésus, si l'Évangile nous montre que c'était un bon vivant, il n'est pas seulement venu pour manger des petits fours ou des Ferrero Rocher aux soirées de l'ambassadeur. Il est venu pour appeler à un changement radical. Appeler à un changement radical. Et si nous aussi, là où on passe, on veut appeler à un changement radical, peut-être ça demande un peu de préparation et pas juste de venir comme ça en chaussettes, si vous me passez l'expression. Ça vaut peut-être le coup de se préparer dans la prière. Prier pour qu'il y ait des occasions, que je puisse avoir l'occasion de parler de ce qui compte vraiment, du royaume de Dieu et de sa justice. Prier pour qu'on ait des réponses à apporter, qu'on ne soit pas pris au dépourvu sur des sujets auxquels on ne sait pas répondre. Priez que nos réponses soient pertinentes. Et puis priez après, pour ceux avec qui on a discuté, que ce qu'on a dit puisse faire son chemin, le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Car c'est lui, c'est Dieu qui fait avancer les choses. Ce n'est pas nous qui convaincons, ce n'est pas nous qui allons changer le monde. Oui, toucher le monde, faire de toutes les nations des disciples, c'est un travail d'équipe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de notre projet d'église, des disciples qui font des disciples. On veut être des disciples qui font des disciples. Et on a mis comme ça 5 mouvements. Le premier mouvement, c'est inviter. Inviter, ce n'est pas seulement dire aux gens « venez ici à l'église le dimanche matin ». C'est aussi « venez à l'église quand l'église est dispersée ». Quand je suis chez moi, dans ma maison, dans mon quartier, avec mes voisins, à un repas avec mes collègues de travail ou d'études, là aussi c'est l'Église. Et là aussi je peux inviter. Un travail d'équipe où on est une fois celui qui invite, une fois celui qui est invité, à tour de rôle. Un peu comme Jésus, un peu comme Lévi, mais pas comme les pharisiens. Et ça, c'est toujours un piège pour nous. Le piège de redevenir comme les pharisiens. Comment est-ce que nous regardons ceux de nos frères et sœurs qui fréquentent la même église que nous et qui passent beaucoup de temps à l'extérieur ? Ceux qui ne sont pas forcément aux réunions auxquelles je suis. Est-ce qu'on les juge comme les pharisiens ? Oh, eux, ils ne sont jamais à l'église. Lui, ses fréquentations, elles sont douteuses. Ou au contraire, est-ce qu'on est partant pour aller avec lui ? Quel regard portons-nous ? Quel regard portons-nous sur nous-mêmes ? Est-ce que maintenant que je suis chrétien, je dois rester à l'église pour éviter d'être contaminé ? Est-ce qu'on doit rester entre nous pour éviter d'être contaminé ? Ou est-ce que je fais partie des malades dont parle Jésus? Et la réponse à cette question, elle est importante. Est-ce que je fais partie des malades ou des bien portants? Moi, je souhaite faire partie des malades parce que les malades, ils ont besoin du médecin alors que les bien portants, ils ont besoin de rien. Et j'ai besoin de Jésus. Je veux vivre avec Jésus. Je veux qu'il me parle, je veux entendre sa voix. Je veux passer du temps avec lui, je veux recevoir sa paix. Oui Seigneur, je suis malade. Guéris-moi encore Seigneur. Guéris-moi encore. J'aime ce récit. J'aime ce récit court parce qu'il est concret. Il est tellement concret, tellement facile à mettre en pratique. Il nous montre comment on peut évangéliser, comment on peut témoigner, comment on peut toucher le monde, comment on peut faire du bien autour de nous, à ceux qui aussi sont malades. Il nous rappelle notre responsabilité, celle de ne pas nous mettre à l'écart, mais d'aller, d'être disponible, d'être en relation avec les autres. Il nous invite à être conscients de notre différence. Et notre différence, elle, c'est pas qu'on est meilleur que les autres. Notre différence, c'est que Jésus nous appelle. Il lance sur nos vies un appel spécifique, celui d'être présent en son nom pour le représenter là où il nous place. Et il nous invite à nous positionner. Est-ce qu'on se positionne du côté des bien-pensants? C'est comme ça qu'il faut faire l'Église. Ceux qui ne voient qu'une seule façon de faire, quitte à manœuvrer dans les coulisses pour essayer d'influencer? Ou est-ce que nous nous positionnons dans la suite de Jésus avec enthousiasme, disponibilité, sans calcul, comme Lévi ou Matthieu, selon le prénom qu'on préfère. On le voit, ici on a le début, il a été appelé, il invite, et puis on a la fin. Il est resté fidèle, il a même écrit un évangile qui nous permet de connaître la vie de notre Seigneur. Une belle carrière que celle de finir évangéliste. Alors, emboîtons son pas à la suite de Jésus, le médecin qui est venu pour les malades, qui est venu pour guérir ceux qui veulent changer. Changer avec lui. Amen.